France Culture. Tout commence par un rêve et par la volonté de fonder un royaume privé et souvent aussi, mais pas nécessairement, une dynastie. Ensuite, il y a la volonté de conquête, l'envie de se battre, de prouver que l'on est supérieur aux autres. Enfin, il y a la joie de créer, de faire aboutir les choses ou simplement la joie de déployer son énergie et d'exercer son ingéniosité. Voilà, selon Schumpeter, bien sûr, qui d'autre, les origines de l'esprit d'entrepreneur. On apprenait le 24 janvier dernier que le nombre de créations d'entreprises a atteint son plus haut niveau en 2024 avec plus d'1,1 million de nouvelles sociétés créées, soit une hausse de 5,6% par rapport à 2023. Derrière ce chiffre qui peut sembler impressionnant, une réalité, 64% des nouvelles immatriculations sont le fait de micro-entreprises. Les micro-entrepreneurs, voilà une nouvelle catégorie à laquelle Schumpeter n'aurait pas forcément pensé. Créé en 2016 dans le sillage du régime d'auto-entrepreneurs en 2009, ce statut a engendré une certaine adhésion. La France comptait 1,46 million de ces micro-entrepreneurs en France fin 2023. Mais qu'est-ce que cet entrepreneuriat nouveau nous raconte de ce qui pousse tel ou tel individu à devenir justement entrepreneur et surtout de la réalité de ce statut? Pourquoi, au nom de quoi, décide-t-on de devenir entrepreneur et grâce à quoi et grâce à qui? Faut-il croire avec Schumpeter que volonté de conquête et joie de créer sont les déterminants du comportement d'individus présentés comme des héros économiques face au dispositif d'aide, d'accompagnement et de subvention, la prudence est de mise. Derrière un entrepreneur, il y a en réalité tout un réseau économique et social. De la figure du génie, représentant un certain esprit du capitalisme, aux start-upers d'aujourd'hui, on remonte ensemble et jusqu'à 15h, la façon dont sociologues et économistes ont analysé la place et le rôle de l'entrepreneur, et surtout dans quelle mesure il peut s'agir là d'une idéologie développée au gré des reconfigurations de l'économie. Une émission programmée et préparée par Diane Devancey, réalisée par Françoise Le Fleur, qui est mise en onde aujourd'hui par Marie-Claire Oumabadi. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Marion Fléchard, bonjour.
Bonjour Aliette Tobine.
Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'Université Paris-Nanterre et chercheuse à l'IDHES pour institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la société. Pierre-Paul Zaliot, vous êtes quant à vous sociologue, président du campus Condorcet. Vous avez co-dirigé le dictionnaire sociologique de l'entrepreneuriat avec Michel Grossetti et Pierre-Marie Chauvin, paru en 2014 aux presses de Sciences Po. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour Aliette Tobine.
Marion Fléchard, on le disait, le nombre de créations d'entreprises a atteint donc son plus haut niveau en France en 2024. On parle là d'1,1 million de nouvelles sociétés. Mais créer son entreprise, est-ce être entrepreneur?
Ah, c'est une grande question. C'est plutôt, voilà, est-ce qu'être entrepreneur, ça se résume à créer son entreprise? Moi, je dirais plutôt. Mais en tout cas, vous l'avez très bien dit en introduction, il y a un nombre croissant de créateurs et créatrices d'entreprises, mais la plupart créent sous le régime du micro-entrepreneur. Donc, c'est pas mal des entreprises individuelles. Il y a relativement peu, en fait, de sociétés créées par rapport à ces nouvelles créations, ce record battu. Donc, je pense que c'est un premier élément à souligner. Alors, c'est sûr que moi, j'ai plutôt cherché à comprendre, voilà, qui étaient celles et ceux qui se lançaient dans la création donc d'entreprises dites start-up, donc plutôt des sociétés. Je me suis moins intéressée à ces auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Donc, moi, vraiment, je me suis vraiment intéressée, voilà, aux déterminants sociaux de la création d'entreprises en France.
Et on va revenir sur la raison de ce focus, on va dire, sur ces fameux start-upers qui ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières années. En attendant, Pierre-Paul Zaliot, il faut quand même le dire, cette explosion du nombre d'entreprises, de création d'entreprises, et puis alors certes avec tous les micro-entrepreneurs qu'il y a derrière, on va revenir sur cette notion, cette explosion du nombre de création d'entreprises, elle interroge sur cette place de l'entrepreneur au sein de l'économie française aujourd'hui.
Mais cette explosion, que nous raconte-t-elle? Et c'est peut-être la question qu'on peut se poser. Chacun a vu dans la rue les livreurs, chacun sait comment est-ce que on peut être amené dans des entreprises de transformer son activité de salarié soudain en activité de consultant. C'est particulièrement vrai pour les seniors, par exemple, pour les gens qui sont en dernière partie de carrière. Et à l'autre bout du spectre des âges, c'est particulièrement vrai pour les personnes jeunes non insérées dans le marché du travail salarié. Donc en fait, ce que nous raconte aussi cette explosion, comme vous dites, enfin cette évolution du chiffre, c'est d'abord une très profonde hybridation des situations d'emploi qui conduisent un grand nombre de situations de travail à être ambiguës par rapport à la question de savoir si on est salarié ou si on est entrepreneur. C'est d'ailleurs une question qui intéresse les tribunaux dans la requalification des contrats, enfin la requalification en contrat
sur
de travail.
Sur le lien de subordination.
Exactement, ouais. Sur le lien de subordination. Et puis ça nous raconte aussi que l'entrepreneur est aussi une figure de l'auto-emploi dans des contextes de crise. Et si vous me permettez un dernier mot, le moment où aux États-Unis la question de l'incitation à créer son entreprise est le plus fort, c'est au retour des GI de la guerre de 39-45, quand les vétérans n'ont pas d'emploi et qu'il faut les inciter à monter leur propre entreprise, qui une épicerie, qui une petite, un petit bazar, une entreprise, une petite entreprise commerciale. Donc on voit comment est-ce que l'entrepreneuriat est pensé comme technologie du self-help en fait, c'est-à-dire de l'entretien de soi et de ses compétences.
Et on voit que c'est aussi un levier aussi de politique publique en fonction, vous l'avez dit, de la conjoncture économique et sociale de façon plus large. Pierre-Paul Zalliot se pose tout de même cette question de la quasiment impossible définition de ce que entrepreneur veut dire. Vous le dites vous-même dans un de vos articles. En tant que sociologue, il est parfois difficile de savoir lors d'une enquête si l'on s'adresse à un représentant du patronat, un dirigeant ou un entrepreneur. Qu'est-ce qui distingue ces trois figures?
Alors, en fait, c'est effectivement empiriquement que l'entrepreneur est insaisissable parce que c'est plutôt une logique d'action qu'une description d'un type de personne. Et pour aller dans le sens que vous soulignez, la théorie économique, puisque nous sommes dans une émission qui s'intéresse aussi, je crois, à la théorie économique.
Je le confirme.
La théorie économique a eu longtemps du mal à saisir l'entrepreneur. Pour une raison, et si je m'en tiens à la théorie la plus classique, c'est-à-dire celle qui postule que des agents économiques sont dans des situations de concurrence, il existe des entreprises. Il existe même des chefs d'entreprise, c'est-à-dire des gens qui sont rémunérés pour conduire l'entreprise. Ils font partie, ils sont rémunérés en tant que facteurs de production. Mais dans une situation de concurrence, l'équilibre s'obtient après que la concurrence ait supprimé le surprofit. Enfin, le surprofit qui serait gagné par quelqu'un qui serait très avantagé disparaîtrait normalement, naturellement par la concurrence. Ce qui fait que Valras dit, à la fin, il n'y a ni gain ni perte. Et s'il n'y a ni gain ni perte, il n'y a pas d'entrepreneur. Et c'est pour dire combien cette figure était complexe à saisir par la théorie économique, complexe aussi à saisir par la sociologie, mais là plutôt parce que la sociologie s'est intéressée aux classes sociales, donc plutôt à la classe ouvrière, aux employés, aux rapports sociaux, et elle n'a pas forcément tout de suite jeté tout son dévolu sur le monde des entrepreneurs et des patrons. Elle l'a fait depuis.
Elle l'a fait depuis, on va voir comment. Marion Fleischer, est-ce que finalement s'intéresser, c'est ce que vous avez fait notamment dans le cadre de votre travail de thèse, s'intéresser au monde des startups, votre thèse est d'ailleurs intitulée « Le monde des startups, le nouveau visage du capitalisme ?» Point d'interrogation. Est-ce que s'intéresser au monde des startups, c'était une façon de prendre une des facettes de l'entrepreneuriat? Parce que de toute façon, il est très compliqué de vouloir brasser l'intégralité de ce groupe social qui n'en est de fait pas vraiment un.
Oui, c'est ça, comme l'expliquait très bien Pierre-Paul Zalliot. En fait, le monde de l'entrepreneuriat est un monde extrêmement hétérogène. Il existe des grands patrons qui sont dans des lignées dynastiques, des petits patrons, des petits commerçants. Il existe des entrepreneurs qui sont salariés, des travailleurs qui sont indépendants, mais qui sont pas forcément chefs d'une entreprise qui emploie des personnes. Donc, c'est un monde extrêmement hétérogène qui n'est pas non plus adossé à des statuts d'emploi homogènes. Donc, moi, j'ai voulu saisir une facette de ce monde-là à travers un type d'acteur qui lui-même en fait était sujet à beaucoup de flou parce que
dans
d'enjeu de définition parce que la catégorie de start-up en elle-même était très floue, ça ne renvoie pas une catégorie d'entreprise, ce n'est pas une catégorie juridique ni statistique, et donc finalement je me retrouvais avec le même problème de comment enquêter empiriquement sur une catégorie en fait qui est avant tout effectivement idéologique ou en tout cas qui a une existence sociale, c'est sûr, mais dont les délimitations ne sont pas juridiques, ne sont pas statutaire. Et en même temps, je pense que Pierre-Paul Zalliot et moi-même sommes habités par la même ambition, c'est tenter de saisir cette réalité sociale qui est en croissance, qui est fortement médiatisée, qui fait l'objet de dispositifs publics, de discours idéologiques. Donc je pense que c'est important d'aller quand même se confronter à cette réalité, comprendre de quoi elle est le nom, en fait.
Et on l'a dit, une alternative, ou en tout cas un tour de passe-passe, on pourrait le dire, c'est celui de s'intéresser essentiellement à l'activité entrepreneuriale, peut-être plus qu'à la figure
de l'entrepreneur en tant que tel. Vous l'avez dit aussi, Pierre-Paul Zaliot, la sociologie s'est longtemps concentrée sur l'entreprise et non sur l'entrepreneur en tant que tel. Et quand on dit l'entreprise, ce sont essentiellement les conditions de travail dans les entreprises qui ont intéressé. Vous citez notamment les travaux du sociologue et philosophe français Georges Friedman qui ont été menés dans les années 1930. Finalement, la sociologie trouve ça peut-être plus confortable, entre plein de guillemets, de s'intéresser aux liens de subordination qui étaient clairement établis, à des hiérarchies qui étaient gravées dans le marbre. Et c'est pour ça qu'il y a eu un premier focus, on va dire, sur cette sociologie des entreprises qui, elle, était un peu plus stable peut-être que cette simple figure de l'entrepreneur.
Les sciences sociales, de manière générale, la sociologie en particulier, c'est pas intéressé spontanément aux élites, pour des raisons d'ailleurs qui sont peut-être assez particulières. C'est que on considérait que on verrait les effets du monde social, on verrait les effets de la contrainte sociale sur les classes sociales subordonnées, à travers la subordination précisément, à travers les rapports sociaux, plutôt que dans les classes supérieures et dans les entrepreneurs. Cela dit, une partie de la pensée sociale qui ne relève pas forcément de la sociologie, mais qui a une très grande importance en France au moins jusqu'aux années 50, et particulièrement auparavant, à la fin du 19e ou entre les deux guerres, s'est intéressée à la figure morale de l'entrepreneur, sa figure de modèle social. Et cet aspect-là, qu'on retrouverait dans l'école leplésienne, par exemple, a une certaine importance quand on considère la longue durée de la fascination pour le modèle du capitaine d'industrie, par exemple. Et de Carnegie à Elon Musk, si on peut dire, il y a quelque chose qui est... alors l'un n'est pas le modèle de l'autre, hein, le moins qu'on puisse dire. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que Elon Musk n'a pas pris Carnegie comme modèle. Mais l'un et l'autre incarnent ces figures ambiguës, mais en même temps épiques, qui sont tenues comme des moyens d'édification sociale que constitue, par exemple, le capitaine d'industrie.
Oui, mais là, Pierre-Paul Zaliot, on a envie de vous dire capitaine d'industrie, c'est quasiment synonyme de patron. On connaît peut-être un peu plus une certaine forme de sociologie des patrons. En quoi se distingue-t-elle vraiment de l'entrepreneur? Comment on peut faire la différence entre ces deux figures-là?
La sociologie des patrons, elle va s'intéresser à la manière dont un milieu social accapare des positions patronales, organise sa représentation. Donc, c'est le lien entre...
Une forme d'institutionnalisation.
Voilà. Soit c'est le lien entre la bourgeoisie d'affaires et la direction des entreprises, avec éventuellement des phénomènes de reproduction sociale, soit il s'agit d'étudier comment est-ce qu'un groupe social, les chefs d'entreprise, organise sa représentation et s'assure que ses intérêts sont bien représentés face aux mesures législatives qui peuvent être prises par un gouvernement ou face aux partenaires sociaux. Le patron est une chose, le capitaine d'industrie, lui, là où il m'intéresse dans ma réponse, c'est que vous avez commencé l'émission sur aussi, c'est la question de l'idéologie patronale, la question de la figure patronale. À la fin du 19e siècle, quand on commence à élaborer ces figures héroïques des capitaines d'industrie, entre parenthèses, c'est une époque où on lit encore les modèles de la réussite dans les classiques latins. Enfin, on lit Plutarque et on essaye de lire des modèles patronaux comme des modèles d'édification morale dans des figures de capitaines d'industrie.
Oui, mais c'est là où c'était extrêmement intéressant autour de cette figure de l'entrepreneur. Marion Fleischer, dans quelle mesure l'entrepreneur se pense quasiment individuellement, dans le sens où on pourrait assez facilement, on l'a compris, voir la figure du patron d'un point de vue sociologique insérée dans son entreprise. On a dit capitaine d'industrie, c'est donc qu'il conduit quelque part une forme de ligne, alors que ce soit économique ou social, au sein d'un secteur précis. Est-ce que ce qui caractérise l'entrepreneur, c'est justement ce caractère extrêmement individuel de sa propre destinée, comme on le disait à l'instant?
Alors, je ne dirais pas que c'est ce qui le caractérise, mais en tout cas, c'est le défi que pose l'étude de cette figure. C'est que, je trouve, à l'image de l'artiste, en fait, on pense l'artiste comme un individu talentueux qui va créer l'œuvre d'art de manière isolée dans son atelier. Eh bien, il y a un peu ce mythe qui repose aussi sur l'entrepreneur comme d'un individu doté d'un talent, d'un génie créateur qui va innover de manière un peu isolée. Et donc, cette idéologie, cette représentation un peu mythifiée de l'entrepreneur, elle est entretenu, créé par tout un tas de récits médiatiques, biographiques, qui ont notamment la portée plus récemment sur justement les success stories de la Silicon Valley, les Elon Musk, Mark Zuckerberg, avant lui Steve Jobs, et qui entretiennent cette idée que l'entrepreneur
serait un individu héroïque, extraordinaire, doté de qualités exceptionnelles. Et je pense que voilà, la difficulté et la réticence aussi des sciences sociales à étudier cette figure, c'est justement les représentations associées et le fait que c'est un individu un peu désocialisé par les récits médiatiques. Et donc tout l'enjeu est pour nous de réinscrire cette figure-là dans un réseau de relations, de structures, d'institutions qui sous-tendent son activité, tout en essayant voilà, de lui donner un peu d'épaisseur sociale, de le réinscrire dans les rapports sociaux de domination en fait, dans lesquels il s'insère, et en même temps en garder une certaine distance par rapport à l'entrepreneur comme catégorie d'action publique. Et ça, je pense que c'est aussi un enjeu, c'est-à-dire que pour le coup, les discours politiques, les politiques publiques n'ont pas peur d'utiliser le mot entrepreneuriat, entrepreneur, comme un espèce de tout, une catégorie fourre-tout. Donc je pense que tout l'enjeu aussi pour les sciences sociales, c'est d'essayer de prendre des distances par rapport à une catégorie mythifiée et une catégorie fortement chargée en termes de politique et d'idéologie.
Pierre-Paul Zaliot, je fais un dernier parallèle entre cette figure de l'entrepreneur et celle des patrons qu'on connaît, qui est peut-être plus traditionnelle, on va le dire. Vous le dites vous-même, on s'est beaucoup intéressé à ces fameux capitaines d'industrie, ces grands patrons, beaucoup moins aux petits patrons, aux patrons de PME, TPE, qui étaient beaucoup plus ancrés localement, on va le dire. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Vous dites d'ailleurs que ça arrangeait aussi quelque part un peu les patrons qui étaient plutôt pas mécontents qu'on ne s'aperçoive pas qu'il s'agissait d'une catégorie sociale extrêmement hétérogène et ce qui leur permettait justement de mieux représenter leurs intérêts. Il y a aussi ça qui explique peut-être des focus mis sur certaines grandes figures qu'on connaît très bien et beaucoup moins sur ce tissu peut-être plus difficile à appréhender que sont les petits patrons. Au même titre qu'aujourd'hui, les entrepreneurs sont difficiles à appréhender.
Alors, c'est aussi parce qu'on est en France. Et la France n'a pas du tout la même structure, par exemple, industrielle que... Prenons l'Italie, par exemple. On pourrait prendre aussi l'Allemagne avec le Mittelstand. Mais prenons brièvement la comparaison France-Italie. La France est un pays à économie dualiste, avec de très grandes entreprises qui sont généralement liées aux commandes d'État, qui sont liées à des secteurs de très grandes infrastructures, qui sont pilotées par des ingénieurs d'État, des ingénieurs des corps, qui se sont apparentés, mariés, entretenus avec les élites nationales, la grande bourgeoisie financière, la noblesse d'État. Et de l'autre côté, vous avez des petits patrons qui, même dans le combat des rapports sociaux, n'a pas les mêmes représentations, voire était même considéré comme gagnable par les partis politiques de la gauche républicaine. Jean Jaurès fait des appels aux petits patrons en leur disant, en fait, vous êtes dans la même situation que nous, vous êtes dans la même situation que les ouvriers, vous êtes dans une situation de domination par rapport, alors à l'époque, les 200 familles, comme on dit. Aujourd'hui, on pourrait dire les grands patrons du CAC 40. Voilà. Donc, je pense que ça, cette division, on va la retrouver quand on regarde les choses à l'échelle locale ou territoriale, dans la très difficile cohabitation ou convergence d'intérêts entre les représentations des PME et les représentations des grands intérêts des très grandes entreprises.
On l'a dit, toute l'ambiguïté du statut d'entrepreneur, ou en tout cas de cette figure-là aussi en tant que figure sociologique, réside, on va dire, sur cet équilibre à trouver entre figure du génie qui est mise en avant et cet encastrement beaucoup plus global dans des liens sociaux et des dispositifs spécialement conçus pour ces entrepreneurs. Reste à savoir d'où vient cette idée qu'il s'agirait justement d'un génie indépendant et individuel. Ce qui est intéressant, et je fais là un tout petit détour par la science économique, Pierre-Paul Zaliot, c'est que finalement, la théorie néoclassique économique ne s'y intéresse pas tellement. On peut de fait peut-être citer des économistes comme Jean-Baptiste Say ou Turgot qui s'en saisissent, mais on sent qu'on a une petite difficulté là, du point de vue de la science économique à se saisir de cette figure-là qui pourrait pourtant être analysée comme un moteur de l'économie. Pourquoi cette réticence?
Parce que dans la conception même que l'on doit se faire de l'entrepreneur, il y a une dimension d'irrationalité. On y reviendra, je pense, si cette émission va sur le terrain de ceux qui se sont vraiment intéressés théoriquement aux entrepreneurs. La théorie économique, celle que vous avez citée, qu'elle commence au mercantilisme jusqu'à l'économie classique et néoclassique, c'est une théorie de la rationalisation de l'action. C'est une théorie d'une action calculable, prévisible. C'est pas une théorie de l'audace. Et c'est ce qui va caractériser la réflexion sur l'entrepreneur à partir du moment où on va s'y coltiner véritablement, où des chercheurs vont s'y coltiner véritablement. C'est comment rendre compte. Alors, vous avez parlé d'héroïsme, on peut parler d'audace, on peut parler de déviation aussi. Il y a quelque chose de déviant dans l'entrepreneur. On le voit à certains égards, j'ai envie de dire malheureusement, dans les patrons de la tech aujourd'hui.
C'est un comportement déviant qu'avait pointé hein, d'ailleurs du doigt Richard Cantillon, lui-même économiste, qui était né en 1697 et mort en 1735, qui précédait donc un tout petit peu Jean-Baptiste Say, qui lui faisait une nette distinction entre l'entrepreneur qui appartient à la catégorie des gens à gage incertain en opposition aux gens à gage certain. On voit là déjà qu'il y a une dimension très importante, mais en revanche, un auteur, on y vient, un auteur parmi d'autres, a tenté de surmonter cette barrière du comportement irrationnel ou non. C'est évidemment Max Weber qui, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, se penche sur cette figure.
Une vague de méfiance, le cas échéant de haine et surtout d'indignation morale, s'élevait régulièrement contre la personne qui était la première à innover. Il est arrivé souvent, j'en connais plusieurs exemples, que commence à se former une véritable légende sur les mystères et les ombres de sa vie antérieure. Il n'est pas facile d'être suffisamment impartial pour s'apercevoir que cet entrepreneur nouveau style a précisément besoin d'une force de caractère peu commune pour ne pas perdre sa maîtrise de soi et son sang-froid et se mettre à l'abri d'un naufrage tant moral qu'économique. Que, outre l'acuité du regard et l'énergie, ce sont tout de même aussi, et avant tout, des qualités éthiques très déterminées et très précises qui, lors de telles innovations, lui acquiert la confiance tout simplement indispensable des clients et des ouvriers et lui permettent de garder le tonus nécessaire pour surmonter les résistances innombrables. Que ce sont ces qualités mêmes qui ont rendu possible en soi ce rendement dans le travail infiniment plus intense et qui est désormais requis de l'entrepreneur et qui l'empêche de jouir paisiblement de la vie. Or, précisément, ces qualités éthiques sont spécifiquement d'une autre nature que celles qui étaient adéquates au traditionnalisme du passé.
Pierre-Paul Zaliot, pourquoi cette figure de l'entrepreneur intéresse Max Weber au tournant du XXe siècle? On se situe là en 1904-1905, là où elle a été relativement laissée de côté par les économistes. Qui voit Max Weber?
D'abord parce que Max Weber se préoccupe d'une chose, qui est l'avènement singulier du capitalisme et de la rationalisation, ce qu'on pourrait dire du capitalisme et de la bureaucratie, de la démocratie rationnelle. Et en fait, il est confronté à une énigme historique. C'est pourquoi est-ce que, dans quelles conditions historiques, cette singularité historique est advenue en Occident et à cette période? Et vous, la citation que vous avez fait lire, tout à fait magistrale, et j'invite vraiment les auditeurs à lire L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui est un livre, peut-être au premier abord, peut paraître aride, mais qui réserve des pages absolument extraordinaires, comme celle que je vous lis et qui est extrait d'un guide que donne Benjamin Franklin, bien connu pour être un savant du XVIIIe siècle, mais qui est aussi un penseur qui écrit un livre qui s'appelle Advice to a Young Tradesman, conseil à un jeune commercial, on pourrait dire, et qui écrit ceci: quiconque perd 5 shillings ne perd pas seulement cette somme, mais tout ce qu'il aurait pu gagner en l'utilisant dans le commerce. Et cette idée va être au cœur de la pensée de Max Weber dans une réflexion qui va se déployer dans deux directions. Parce que les 5 shillings, ça signifie pas que l'entrepreneur est mu par un goût immodéré de l'argent. Alors, c'est une question très actuelle, puisque la question des surrémunérations, des patrons, beaucoup discutée, reste encore une question d'indignation morale, y compris dans les sphères de ceux qui défendent le libéralisme économique. Weber insiste là-dessus, la passion et le goût immodéré de l'argent n'est pas le moteur du capitalisme. Et il dit, par exemple, l'ori sacra fames, la soif exécrable de l'or, est aussi ancienne que l'histoire de l'humanité, mais ceux qui s'y sont abandonnés sans réserve comme à une pulsion, le vocabulaire de la pulsion, hein, qui renvoie quand même à quelque chose de très, presque de la libido, comme par exemple le fameux capitaine hollandais qui voulait par amour du profit traverser l'enfer, quand même il s'y serait brûlé les voiles. Le point essentiel, c'est que Weber doit penser en même temps deux choses qui sont contradictoires et qui adviennent au même moment. L'avènement de la rationalisation et donc de la domination bureaucratique. La domination bureaucratique, c'est le fait d'installer un pouvoir en fonction de la vertu et du savoir. et de l'autre, le capitalisme qui, lui, se développe dans la liberté d'innovation et la transgression.
Mais alors justement, Pierre-Paul Zalli, on pourrait se dire que l'entrepreneur pris dans cette contradiction-là, entre l'enclume et le marteau, on pourrait dire, va nécessairement se retrouver être un rouage de cette nouvelle forme d'organisation de l'économie bureaucratisée. Il va se retrouver plus gestionnaire, on va dire, de son entreprise qu'autre chose. Comment il arrive à conserver ce génie-là?
Justement, la thèse de Max Weber, c'est de dire que dans un système capitaliste qui court le risque de la routinisation, c'est-à-dire qui court le risque de la bureaucratisation, et on l'a vu d'ailleurs dans l'histoire du capitalisme, la bureaucratisation de l'entreprise, dans cette à quoi s'ajoute une tendance naturelle dans le courant de la démocratisation au nivellement des conditions, la seule figure historique qui doit être capable de résister à ce mouvement de bureaucratisation et de nivellement, ça va être l'entrepreneur. Et donc, Weber a une phrase absolument saisissante. Il dit « La double nature de l'esprit du capitalisme, c'est que l'entrepreneur est tantôt un comptable avisé et tantôt un prédateur audacieux. » C'est-à-dire une figure qui est tout à la fois un comptable avisé. Et Max Weber est l'homme du développement de la comptabilité, du développement de la rationalisation du monde dans des opérations quotidiennes. Et nous sommes, nous, totalement gouverné par ces opérations de rationalisation, votre pendule, le téléphone, les horaires, enfin on est complètement pris dans cette rationalisation. Et en même temps, Weber décèle qu'il faudra une figure audacieuse qui renvoie à l'antagonisme chez Weber entre le charisme, qui est une notion très importante pour Weber et pour la sociologie, mais qui est le charisme de l'entrepreneur, et la vie quotidienne de l'économie, qui, elle, au contraire, incite à la routine, à la tradition, à la mise en place d'habitude et de stabilité.
Alors, pour voir ce qu'il reste de Weber aujourd'hui, on va faire un sacré saut dans le temps, on va faire des allers-retours comme cela, mais je vous propose, pour essayer de comprendre ce qu'il reste de cet esprit-là de l'entrepreneur qui tente d'échapper à une forme de rationalisation trop importante, et notamment du travail, je vous propose d'écouter le témoignage d'Adrien, qui s'exprimait sur France Culture en 2018.
C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est grand groupe me fait moins rêver. J'ai eu la chance en fait de faire pas mal de stages et notamment 2 années d'alternance dans des grands groupes. Peut-être qu'aujourd'hui, je gagne un peu moins bien ma vie, mais en tout cas, je m'éclate au quotidien, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas si j'avais pris plutôt la voie grand groupe. Je pense que dans un grand groupe, il y a une routine qui est beaucoup plus importante au quotidien. Il y a forcément moins de responsabilités. Là, effectivement, en start-up, il y a tout à faire. On met les mains dans le cambouis. Puis le fait de travailler vraiment en équipe et généralement des petites équipes, moi je trouve que le côté humain est super sympa. Tout va beaucoup plus vite, c'est plus sympa. C'est beaucoup moins aussi vertical, je pense. Même si bon, il y a des grands groupes, je pense que ça devient de plus en plus horizontal au niveau du management. Là, il n'y a pas vraiment en fait de hiérarchie. Il y a un boss, il y a un PDG, il y a des cofondateurs, etc. Mais au final, c'est très horizontal et ça, c'est vrai que c'est appréciable. Parce qu'au final, c'est quand même, finalement, c'est la meilleure idée, la meilleure décision qui l'emporte. Et c'est pas le grade.
Mario Fleischer, on entendait là Antoine, jeune start-upper, donc c'était en 2018 sur les ondes de France Culture. Dans quelle mesure peut-on voir une illustration presque directe de ce concept qu'on trouve chez Max Weber, de se dire que entreprendre, c'est justement échapper au carcan de la rationalisation? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez retrouvé justement chez les jeunes start-upers que vous avez pu interroger?
Ah mais absolument, j'ai l'impression d'entendre tous les entretiens que j'ai pu mener avec des créateurs et créatrices de start-up pendant ma recherche, où en effet un trait commun, en tout cas qui ressortait de leur discours, c'était cette volonté de s'affranchir de la contrainte hiérarchique d'une grande entreprise, alors qui est incarnée par cette figure du grand groupe, un peu figure repoussoir qui empêcherait toute forme d'autonomie au travail, de latitude décisionnelle, et on veut se soustraire à cette routine, à cette bureaucratie, enfin, c'est vraiment ça qui était mis en avant. Et puis donc l'entrepreneuriat apparaît comme un contre-modèle, une opportunité en fait à la fois de se soustraire à une subordination, un rapport de subordination et à une hiérarchie un peu trop jugée contraignante, et en même temps la voie de l'épanouissement personnel, de la réalisation de soi, une manière de retrouver du sens au travail. Donc il y avait vraiment ces deux piliers qui ressortaient des entretiens que je menais avec les créateurs créateurs et créatrices de start-up, mais aussi finalement avec les travailleurs hein, qui viennent rejoindre ces entreprises et qui valorisent aussi ce modèle d'entreprise comme étant une alternative. Alors, rêver, imaginer, idéaliser, on pourra revenir sur le fait que c'est pas toujours le cas en réalité, mais en tout cas, c'est quelque chose qui apparaît assez structurant du rapport au travail et à l'emploi des jeunes diplômés aujourd'hui. Ouais.
Mais Marion Fleischer, c'est là effectivement où la chose devient intéressante, c'est est-ce que les faits donnent raison de fait à cet idéal de l'entrepreneur solitaire, on l'a dit, cette figure isolée, très très individualisée. Dans les faits, même dans le monde de la start-up, il est assez rare de voir quelqu'un mener sa propre aventure entrepreneuriale, on va dire, entièrement seul. Ce ne sont pas des structures où on retrouve absolument une disparition totale du salariat, entre autres.
Absolument. Alors, d'une part, c'est un mode d'entrepreneuriat assez intéressant parce que, contrairement à cette image justement très individuelle de l'entrepreneur, la plupart des startups sont créées collectivement. Alors, il y a vraiment cette mise en, d'ailleurs, valorisation de l'entrepreneuriat de startup comme une entreprise collective qui se fait avec des associés. Donc, il faut absolument s'entourer, avoir des associés qui aient des compétences complémentaires. Donc, ça, c'est extrêmement valorisé, même pour avoir accès au financement. Ensuite, ce sont par ailleurs des entrepreneurs qui, pour réussir et pour ne serait-ce que accéder à ce monde, doivent passer par tout un tas d'étapes institutionnelles, institutionnalisées. Donc, ils doivent obtenir l'aide de structures d'accompagnement. On a entendu parler d'incubateurs, d'accélérateurs, de pépinières. Toutes ces structures visent à aider, à soutenir l'activité entrepreneuriale. Et à terme, ce sont aussi des entreprises qui ont besoin de trouver des financements extérieurs, puisque le modèle de la start-up repose principalement sur le financement d'organisations. Alors privés, publics, semi-publics, qui viennent soutenir cette activité entrepreneuriale. Et donc parmi ces acteurs, la puissance publique, notamment la BPI France, enfin la Banque publique d'investissement, joue un rôle majeur, considérable, puisque c'est plus de 20 milliards d'euros investis chaque année là pour soutenir cet écosystème. Donc on voit à quel point c'est une activité qui est insérée dans un réseau d'acteurs, d'institutions, de relations. Qui est déterminant.
Et on va voir comment cette institutionnalisation s'inscrit elle-même dans un climat politique très spécifique et un discours aussi qui s'est construit progressivement. Pierre-Paul Zaliot, si on revient à Max Weber, on pourrait se dire qu'effectivement, ce qu'on observe aujourd'hui, et notamment la façon dont est promu, dont est notamment soutenu l'entrepreneuriat, correspond aussi à cet esprit du capitalisme qu'il met en avant.
Oui, la grande inquiétude de Weber, c'est que le capitalisme s'épuise, en fait. Et c'est une. D'ailleurs, on retrouvera chez un élève de Weber, qui est Joseph Schumpeter, ce questionnement. Et à certains égards, des économistes contemporains, y compris qui ont conseillé, par exemple, le président de la République il y a quelques années, ont plutôt misé sur l'idée qu'il fallait avoir une politique, on sait, de l'offre, un contexte libéral, pro-business, comme on dit, mais aussi considérer que il faut accepter, on peut accepter d'augmenter les inégalités ça a comme contrepartie la capacité d'ouvrir des perspectives entrepreneuriales et d'enrichissement. Et ce qui est typiquement un raisonnement schumpeterien.
Et on va en venir à cette figure de Schumpeter. Avant cela, on reste tout de même au tout début du XXe siècle, on va dire Schumpeter aussi, mais sur cette idée d'incarner que cet entrepreneuriat, cet esprit entrepreneurial incarne aussi l'esprit d'une époque et l'esprit d'une façon pour l'économie de se configurer. Un autre penseur s'est intéressé à la question, et c'est notamment le cas de Werner Zambart en 1926. Il le dit, à la phase du capitalisme naissant, c'est l'entrepreneur qui fait le capitalisme, tandis que dans la phase plus avancée, c'est le capitalisme qui fait l'entrepreneur. Là, Pierre-Paul Zaliot, il faut nous expliquer les conséquences finalement de ce lien très fort entre capitalisme et la forme qu'il prend et figure de l'entrepreneur.
C'est-à-dire que le système, le capitalisme, du moins la société capitaliste, façonne des dispositions à agir, installe dans toute une série de mécanismes de socialisation, de mécanismes de la vie quotidienne, l'idée que il y a non seulement place, mais nécessité d'un entrepreneur, d'un innovateur, d'une figure sociale qui est celui de l'entrepreneur. Chez Werner Zambart, il y a aussi une interrogation sur ce qu'est la société bourgeoise. Et vous avez parlé du début du siècle. Il y a quelque chose qui se joue par des phases historiques qui sont d'ailleurs changeantes, et la période actuelle est en plein dans une de ces phases, le fait que le capitalisme fonctionne avec un niveau très élevé de libre-échange et de possibilités offertes à la circulation des hommes et des capitaux, qui est la grande tendance qui a dominé à partir du Second Empire pour installer la prospérité, en tout cas en Europe. Et puis, des moments de fermeture sur des communautés, du coup, économiques, patronales, entrepreneuriales, qui se referment. Voilà, donc ça, c'est une question qui n'est pas anodine pour la question de l'entrepreneuriat, puisqu'en fait, c'est évidemment la création de frontières est à la fois une création, est à la fois un limitateur des activités économiques, mais en même temps créateur d'immenses opportunités de franchissement, puisque qui dit frontière dit opportunité de franchissement, et à certains égards, c'est un des domaines aussi des entrepreneurs de franchir les frontières et les contraintes.
Tout en sachant innover, effectivement, pour voir comment ces contraintes peuvent devenir des opportunités. Marion Fleischer, on l'a dit, impossible de ne pas mentionner la figure de l'entrepreneur sans en passer, évidemment, par Joseph Alois Schumpeter. Avec lui émerge l'idée d'un agent économique qui n'est pas nécessairement rationnel, dans le sens où il ne fait pas forcément grand cas du calcul économique. Pour lui, le défi, le jeu, bref, aller contre l'ordre économique établi sont aussi des moteurs. C'est ce qu'on entendait dans la citation au tout début de l'émission. C'est à ce moment-là qu'émerge cette idée de l'entrepreneur, certes, mais de l'entrepreneur innovateur.
Exactement. Chez Schumpeter, l'entrepreneur, c'est celui qui innove, c'est celui qui vient bouleverser l'ordre établi, la structure des marchés. Et la figure de l'entrepreneur chez Schumpeter s'oppose d'ailleurs à celle du dirigeant d'entreprise qui, lui, est enfermé dans une routine, etc. Donc, effectivement, on a vraiment cette valorisation de l'entrepreneuriat comme moteur de progrès social, économique, et puis comme individu doté de qualités exceptionnelles. Et c'est cette croyance qui domine encore aujourd'hui, même si de nombreux travaux ont tenté de montrer à quel point cette figure était en réalité bien plus idéalisée que réelle. Et en fait, c'est cette volonté de croire dans l'entrepreneuriat comme moteur de progrès économique et social qui fait qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore, on a tout un tas de politiques publiques qui valorisent cette forme d'entreprise de soi, cette forme d'activité économique, comme si ça permettrait de résoudre à la fois d'un côté le chômage et la crise économique, et puis de l'autre, comme si c'était une manière de favoriser l'innovation, le progrès technologique en France.
Et puis, on l'a dit avec Schumpeter, c'est cette idée d'innover pour mieux entreprendre qui apparaît sur la table. On a déjà évoqué l'idée de profit n'est pas nécessairement au cœur des analyses de tous ces penseurs-là. L'idée, c'est pas forcément de trouver la faille pour se positionner le premier sur un marché et donc en récupérer toutes les retombées économiques. Mais d'autres économistes arrivent, eux plutôt autrichiens, dans la lignée de Schumpeter, et eux vont redéfinir encore une fois ce rôle de l'entrepreneur et ce qu'il est capable de faire grâce à son génie. L'idée de voir des opportunités là où les autres n'en voient pas forcément, c'est ainsi que Bill Gates expliquait les origines de son entreprise et donc de son odyssée personnelle. C'était ce matin même au micro de France Inter.
L'une des raisons pour lesquelles les autres enfants m'ont amené à utiliser l'ordinateur, c'était que j'étais très bon en maths. Moi, je comprenais ça tout de suite, comment il fallait corriger le code. Et pour moi, c'était quelque chose de très amusant, étonnant. Et je me posais la question, qu'est-ce que peut faire un logiciel? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête? Et c'est devenu quelque chose sur lequel mon esprit, mon cerveau travaillait. On a compris que le coût des ordinateurs allait baisser. Et on a compris qu'il y aurait des ordinateurs personnels dans tous les appartements, dans toutes les maisons, dans tous les bureaux. Et nous, comme on avait l'esprit ouvert, on a vu quelque chose que les autres n'avaient pas. Et on voulait être les leaders dans ce domaine. Parce que, bon, on a compris que cette civilisation de l'ordinateur serait étonnante. Et j'ai beaucoup de chance de rencontrer Paul et qu'on ait monté ce partenariat. Et lui, il m'a dit, bon, allons-y, faisons-le. Et finalement, j'ai arrêté mes études pour commencer à travailler beaucoup plus dans les ordinateurs, dans les logiciels.
Et voilà, voir des opportunités là où les autres n'en voient pas. Pierre-Paul Zaliot, cette capacité quasiment surhumaine, hein, on est encore là dans une figure de héros qui émerge, elle a été justement analysée par notamment Ludwig von Mises et Israël Kirzner. Pour eux, on arrive à une nouvelle définition de l'entrepreneur. On a eu l'entrepreneur gestionnaire, l'entrepreneur innovateur. Maintenant, on a quoi? L'entrepreneur super arbitreur,
c'est comme ça qu'on pourrait dire. Vous avez l'art de trouver les bons bobineaux, parce que c'est vraiment, là, on a tout ce qu'on a, tout ce sur quoi On a échangé parce qu'il nous parle de l'entreprise comme, enfin de son action comme innovation, la chance d'avoir eu un partenaire, donc le travail d'exploration qui est mené avec un autre, donc on voit que c'est un peu plus compliqué que tout seul. Et puis, effectivement, à l'entrepreneur comme innovateur, il ajoute une figure qui est l'entrepreneur comme arbitragiste, c'est-à-dire quelqu'un qui se rémunère et qui gagne de l'argent sur le fait qu'il a une capacité singulière à repérer des espaces que personne n'avait vus avant lui, et en particulier à repérer éventuellement des écarts de prix et d'évaluation qu'il va pouvoir faire en proposant... Alors, c'est quand même encore une théorie de l'innovation, parce qu'il s'agit de l'ordinateur, donc il s'agit d'un objet, d'un service nouveau, mais dont il perçoit avant les autres que ça va pouvoir donner... ça va pouvoir donner la possibilité de gagner des profits, parce que les autres n'ont pas vu, qu'ils le voient avant. Donc on voit ces deux figures... l'innovateur, mais aussi l'arbitragiste, c'est-à-dire celui qui voit avant les autres et qui sait arbitrer entre ce qu'il y a comme intérêt à se jeter dans cette activité nouvelle et à y gagner quelque chose, et ne pas le faire. Et évidemment, inventer les modes de vie des autres. Parce que là, il y a quand même quelque chose qui est tout à fait extraordinaire et qui poursuit la réflexion de Weber. Weber a des réflexions sur la règle à calcul, par exemple. Là, il s'agit... d'une transformation radicale, ça sera le cas pour Bill Gates, ça sera le cas aussi pour Steve Jobs, ça sera le cas pour l'inventeur des réseaux sociaux, pour les inventeurs des réseaux sociaux. Enfin, ce sont des gens qui ont modifié profondément l'ensemble des métriques de nos existences quotidiennes. C'est ça qui est quand même absolument extraordinaire.
Marion Fleischer, pour en revenir aussi à nos start-upers d'aujourd'hui, on l'a dit avec Pierre-Paul Zaliot, que le profit n'était pas nécessairement au centre de leur motivation, mais tout de même, quand on dit découvrir des choses avant les autres, voir des opportunités, et potentiellement des opportunités de profit là où les autres n'en voient pas, dans quelle mesure c'est au cœur des motivations des start-upers que vous avez pu rencontrer? Est-ce que vraiment cette dimension purement financière, on va dire, que de réaliser du profit est écartée avec eux?
Alors, outre le fait que ces récits-là, je pense, contribuent à entretenir justement cette vision ultra-héroïque et à désocialiser encore une fois l'activité de l'entrepreneur de toutes à la fois les dispositions en fait qui les amènent à créer leur entreprise, mais aussi des dispositifs qui les aident dans cette entreprise, voilà, moi, ce qui ressortait, c'était cette dimension de distinction sociale, cette logique de distinction sociale comme moteur de l'engagement dans la carrière entrepreneuriale, parce qu'on le voit à travers cet entretien avec Bill Gates. Il y a en fait une forme de prestige social à se montrer comme ce découvreur d'opportunités, cet innovateur capable de changer le monde, d'apporter ce progrès économique, social à une société.
Il y a cet espoir-là à la base. C'était vraiment cette idée-là de se dire peut-être que je vais changer le monde.
Oui, c'était quelque chose qui revenait souvent alors des entretiens que je menais avec les créateurs et créatrices start-up que j'ai rencontrés, et en même temps, ils se rendaient bien compte en fait qu'ils n'avaient pas une idée forcément toujours révolutionnaire, parce que là, on a l'exemple de Bill Gates, on sait que ça a fonctionné, mais bon, la plupart des start-upeurs français créent pas, Google, enfin c'est pas... Donc du coup, ils savent à la fois très bien qu'ils vont pas changer le monde, mais en même temps, c'est quelque chose qu'ils vont... Enfin, le fait de créer une start-up sous l'étiquette en fait, valoriser de la start-up, c'est pour elle et eux une manière de se distinguer de l'image un peu poussiéreuse du patron. Alors souvent incarné d'ailleurs par leur père, chef d'entreprise ou cadre dirigeant ou cadre d'entreprise.
Cette sociologie-là en tant que classe en fait.
Exactement, et parce qu'on sait aussi qu'il y a tout un tas de rétributions symboliques associées dans le contexte actuel à la figure de l'entrepreneur. Alors d'une part du fait de ces success stories qui sont fortement médiatisées, valorisées, d'autre part parce que ça donne accès en fait à des financements très concrets hein, par les politiques publiques mises en œuvre. Mais du coup, c'est vraiment pour elle et eux une manière de se distinguer de cette figure de l'héritier, du dirigeant, du patron, en incarnant cette figure un peu héroïque, moderne de l'entrepreneur dynamique qui est capable de créer, d'apporter ce changement. Et donc c'était vraiment une dimension rhétorique assez présente.
Pierre-Paul Zaliot, on pourrait se dire que tout n'est pas forcément question de génie ou d'énormes coups de chance. Il y a aussi l'idée de savoir maîtriser certains outils qui permettent justement de réduire l'incertitude et de savoir interpréter aussi peut-être les signaux faibles, on va dire, qui courent à travers la société et plus globalement l'économie financière. Cette figure-là de l'entrepreneur qui maîtrise ces outils dans un contexte d'incertitude qui est quand même énorme, elle a été aussi analysée, et notamment par Frank Knight, qui est un autre grand penseur de l'entrepreneuriat, on va dire, et donc de l'entrepreneur. On est là dans les années 60. Qu'est-ce qui change à ce moment-là?
En fait, ce qui permet à un entrepreneur de maîtriser l'incertitude, mais je vais répondre à votre interpellation sur Knight, c'est précisément les mécanismes que décrit Marion. C'est-à-dire que c'est parce que, du moins c'est la manière dont les sciences sociales regardent le sujet, c'est parce que les acteurs sont encastrés, bénéficient d'appui, qu'en réalité ils ont cette capacité à gérer l'incertitude. Mais enfin, ou gérer, ou plutôt faire face à l'incertitude, ou agir en incertitude. Je retire le mot gérer parce que justement, il appartiendrait pas du tout au bon chancement.
Ce serait trop rationnel. Peut-être.
Voilà. Frank Knight, bon, il est connu pour une distinction particulière qui est le fait d'avoir distingué le risque et l'incertitude. La situation d'incertitude par rapport à la situation de risque, c'est que l'incertitude, si l'incertitude inhérente au futur peut être réduite ou maîtrisée par un calcul de probabilité, ça devient un risque qu'on peut assurer. À partir du moment où on se lance dans une action dans laquelle on ne peut pas dresser la liste des états possibles du monde, on ne peut pas savoir ce que va donner l'iPhone, on ne peut pas savoir ce que va donner l'iPod, on ne peut pas savoir ce que va donner telle innovation, et donc il y a une incertitude radicale, et l'existence de l'entrepreneur, c'est l'existence de quelqu'un qui saura se rémunérer sur sa capacité à agir sur la base de jugements en situation. Et là, on revoit se réintroduire, et je le dis bien, non pas pour le réifier, mais on voit se réintroduire cette notion de l'entrepreneur qui, en situation, sera décidé dans l'incertitude, alors qu'évidemment, cette capacité à décider dans l'incertitude est profondément liée à la socialisation particulière de l'entrepreneur, de son encastrement. Il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a pas d'entrepreneur, parce que l'entrepreneur totalement capable de maîtriser cette incertitude et d'être de vrais innovateurs. Parce que précisément, le capitalisme a avancé comme cela. Et donc, sans réifier leur héroïsme, il y a tous ceux qui tentent des choses et qui ne réussissent pas, mais il y a ces coups extraordinaires qui font que des individus vont tout à coup venir sur le devant de la scène.
Alors innover en étant bien accompagné, c'est peut-être ainsi qu'on pourrait définir l'entrepreneur, mais derrière les appétences, les traits de caractère personnels, il faut bien se rendre compte qu'il y a une structure derrière qui encourage et qui rend possible justement l'entrepreneuriat. Et c'est parmi les grands facteurs qui permettaient l'émergence de ces génies. Pour Max Weber, on le disait en début d'émission, il suffisait d'une étincelle.
Le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares.
Vous êtes bien à l'écoute de France Culture, comment allumer le feu de l'entrepreneuriat, c'est notre sujet aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho, et nous sommes toujours en compagnie des sociologues Marion Fléchère et Pierre-Paul Zalliot. Et je vous propose d'écouter justement, on le disait, que les entrepreneurs avaient certes potentiellement du génie, c'est ce qu'ont dit de nombreux sociologues tout au long du XXe siècle, mais ils ont aussi certains filets de sécurité, c'est ce que disait Emmanuel Macron en 2017.
Nous devons aller plus loin. Aujourd'hui, la France est en train de devenir la nation des start-up et elle doit réussir ce pari. C'est cela ce que je veux faire avec vous dans les années qui viennent. Précéder, anticiper, porter ce mouvement. Alors oui, ce que vous avez commencé à faire, ce que vous incarnez ici aujourd'hui et que nous allons continuer ensemble, suppose d'être, en ce qui nous concerne, plus entreprenant, plus fort, plus exigeant. Je ne veux plus qu'entreprendre en France soit trop souvent seulement intéressant lorsqu'on ne gagne pas encore d'argent. J'ai vu trop de start-up me dire « c'était formidable, nous avons lancé les choses » puis quand il s'agissait de développer nos innovations, on a quitté le pays. Alors oui, en baissant l'impôt sur les sociétés, en réduisant les charges salariales et patronales, en simplifiant les dispositifs d'incitation à l'innovation, en supprimant le RSI, nous créerons un contexte plus attractif pour les entrepreneurs et qui permettra aux entrepreneurs de réussir davantage, plus vite, plus fort, à l'échelle du pays, puis du continent et à l'échelle mondiale.
Le 15 juin 2017, Emmanuel Macron exprimait sa volonté de transformer la France en une start-up nation en favorisant autant que faire se peut l'innovation, ce qui passe pour lui par une redéfinition du rôle de l'État en tant qu'accompagnateur de cette innovation. Marion Fleischer, on s'était arrêté à un moment où la figure de l'entrepreneur était vue soit comme un génie pur, soit comme le résultat d'un milieu spécifique, d'un milieu très marqué par sa classe et donc potentiellement exceptionnel, jamais comme le produit de politique publique. Est-ce que c'est cela le tournant des années 2010? On se rend compte qu'il y a une forme de prise de conscience de l'appareil qui soutient, qui donc peut créer à sa manière des entrepreneurs.
Oui, alors la promotion publique de la création d'entreprise est quand même ancienne. Ça fait plus de 50 ans qu'on a des politiques publiques qui encouragent la création d'entreprise, que ce soit par des aides à la création d'entreprise pour les chômeurs, on pense à l'ACRE, que ce soit par le régime de l'auto-entrepreneur créé en 2008, pour inciter les personnes en situation de chômage ou de précarité à créer.
Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Mais il y a eu un changement de cible, c'est ça. Dans les années, au tournant des années 2010 et plus particulièrement en 2013, alors c'était sous François Hollande, le pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi met en place une série de dispositifs d'exonération fiscale patronale qui vise à encourager la création d'entreprises innovantes, mais aussi l'investissement dans ces entreprises innovantes. Et effectivement, c'est aussi, c'est à cette année-là que voit que se crée la BPI France, qui donc une banque publique d'investissement qui a investi des milliards d'euros dans la création dans la subvention, l'octroi de crédit, dans l'investissement même par capital à des entreprises innovantes. Et ça a été vraiment un tournant, en fait, dans l'émergence, dans le développement de ce qu'on a appelé un écosystème de start-up françaises, puisque c'est grâce à ces politiques publiques que la plupart des créateurs et créatrices de start-up financent le démarrage de leur entreprise. Donc ça, c'est sûr que ça vient un peu rompre avec cette idée que la création de start-up, les innovateurs seraient des individus un peu isolés, et puis en plus, que ce soit une idéologie d'un libéralisme pur. En fait, ce que ça montre, c'est à quel point aussi le néolibéralisme, c'est pas la disparition de l'État, c'est un État au service des marchés, un État au service de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprise. Et c'est une théorie politique particulière, hein, qui croit dans le fait que le marché serait le meilleur allocataire des ressources, de la justice sociale. C'est une idéologie qui porte avec elle la croyance dans l'égalité des chances, la méritocratie, la responsabilité individuelle. Moi j'ai pu montrer aussi à quel point finalement ces politiques publiques ne bénéficient pas à n'importe qui, mais plutôt des individus qui ont aussi la capacité à prendre ce risque, puisqu'on parlait de dispositions à la prise de risque. Ces dispositions-là, elles ne sont pas également réparties. Il y a des individus qui ont à la fois la possibilité d'en prendre, mais aussi de le réduire.
Et on va voir quel filet de sécurité très concrètement se mettent en place, et sur notamment la création de la BPI et cette idée d'un État qui met ses ressources, on va dire, au service aussi de cette économie-là. Je renvoie les auditeurs et les auditrices à notre émission qu'on a consacrée mercredi dernier à l'État actionnaire dans toute l'acception du terme. Pierre-Paul Zaliot, vous dites que les organisations patronales sont devenues à partir des années 90 les porteurs et les promoteurs d'une idéologie de l'entrepreneur, d'un modèle de société alternatif à celui proposé par l'État-providence à la française. Est-ce que c'est ça aussi l'origine du retournement de ces années 2000-2010?
Ça y participe. Et puisque vous avez passé cette chanson dont les paroles sont « Allumer le feu, faire danser les dieux », un des adages des théories du management qui vont servir de base à la grande réforme entrepreneuriale du patronat, c'est un adage issu d'un auteur que je ne retrouve pas d'ailleurs tout de suite à la mémoire, c'est pas grave, de la théorie du management, qui dit « make the giant dancing ». C'est-à-dire, quand vous êtes dans une situation d'épuisement de la productivité des grosses entreprises et des grosses organisations, il faut trouver les moyens de redonner de la flexibilité, de l'agilité à de très grosses entreprises. Et vont s'en suivre toute une série d'actions à l'intérieur des entreprises auxquels vont concourir un certain nombre de politiques publiques, comme par exemple favoriser l'individualisation de la rémunération, favoriser la reconnaissance du travail en autonomie et du travail sur projet à l'intérieur de l'organisation, favoriser la sortie de l'entreprise pour devenir un prestataire de compétences et transférer, partir avec ses compétences pour ensuite les vendre à l'entreprise. Donc on a tout un... Et évidemment, pour faire ça, il faut transformer en profondeur l'idéologie même de ce que c'est que l'entrepreneur, l'entreprise. Il faut s'appeler le MEDEF, par exemple, première réforme, mouvement des entreprises, des entrepreneurs de France. Il faut valoriser toute la continuité entre l'entreprise, l'entrepreneur comme modèle de société. Au fond, on passe d'un moment où, dans les années 80-90, on a pu, dans les cercles patronaux, proposer l'entreprise comme un modèle de société, entreprise comme communauté de travail, comme institution de travail, comme institution des rapports sociaux, à un autre modèle qui est le modèle de l'entrepreneur comme modèle de société, ce qui est encore une autre affaire et c'est une transition très importante.
Oui, mais Pierre-Paul Zaliot, on en revient en fait toujours à notre problème de définition. Pourquoi justement à ce moment-là, on n'a pas mis en avant la figure du petit patron? Justement, on aurait pu se dire, lui qui avait été un peu en disgrâce parce que on se rendait bien compte qu'il fallait faire corps, on va dire, d'un point de vue institutionnel pour les patrons. On pourrait se dire, voilà, les petits patrons, c'est des structures plus petites, donc plus flexibles, plus réactives, plus insérées dans des milieux assez divers. C'est ça qu'il faut promouvoir et non pas l'idée d'un entrepreneur plus individualiste, par exemple.
En fait, derrière le petit patron, il y a aussi le grand monde de l'artisanat, en fait, qui est un autre monde social, qui est plus en continuité avec la classe ouvrière qu'avec, disons, le monde, enfin, en continuité en termes, pour utiliser un terme de sociologue, presque en termes d'habitus, en fait, de mode de vie, d'espaces sociaux parcourus. Donc ça c'est un premier point. Le second, c'est que le meilleur entrepreneur pour le capitalisme, c'est l'entrepreneur le plus fragile et le plus exposé et celui qui va le plus facilement proposer un service. Alors non pas proposer un service salarié, mais proposer un service individualisé dans un entrepreneuriat. Et ça, c'est la figure du micro-entrepreneur. Et on en revient à ce capitalisme de plateforme, par exemple, qui va se construire sur la valorisation de la figure de l'entrepreneur individuel.
Marion Fleischer, vous vouliez réagir?
Oui, et finalement, on a aussi cette valorisation, malgré tout, de la petite entreprise, puisque en valorisant, par exemple, le modèle de la start-up, même si il y en a quelques-unes qui parviennent à connaître le succès, on valorise finalement aussi des entreprises relativement petites. Alors, c'est la promesse de la création d'emplois, mais en réalité, c'est la promesse d'un nouveau modèle de production, de l'engagement au travail chez les travailleurs et travailleuses de start-up, qui passe plus par des formes assez classiques de rémunération, etc., mais plutôt par des projets qui ont du sens, le fait de vouloir participer à une entreprise collective à taille humaine. Et en fait, le discours qu'on entendait chez Adrien est vraiment assez similaire à celui qui anime aussi ceux qui viennent prêter main forte en fait à ces petites entreprises et qui en fait participent au renouvellement du capitalisme, à sa pérennité sur le long terme.
Mais on en revient tout de même, Marion Fleischer, à cette idée de distinction sociale et symbolique aussi vis-à-vis du petit patron. Le start-upper n'a pas forcément envie d'être étiqueté comme appartenant à cet artisanat-là qu'on évoquait à l'instant. C'est tout l'enjeu aussi de cette étiquette.
Absolument. Et en fait, je pense que cette étiquette, elle vient aussi masquer une ambivalence. C'est que, à travers le fait que la plupart de ces individus qui se lancent dans l'entrepreneuriat valorisent la quête d'indépendance, valorisent la réussite sociale et économique, en réalité, faut pas oublier qu'on reste dans une société salariale et que, malgré cette augmentation du nombre d'entreprises qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, la plupart de ces créateurs d'entreprises sont des salariés, très attachés au salariat. C'est ce qu'aussi rappelle Emmanuel Macron dans ce discours. C'est comment on peut sécuriser l'entrée dans l'entrepreneuriat par une série en fait de dispositifs publics qui permettent de rester affilié à la sécurité sociale, de cotiser pour sa retraite, de toucher le chômage en cas en fait d'échec. Et c'est finalement assez ambivalent comme modèle, puisque à la fois on remet en cause le modèle de la grande entreprise bureaucratique du salariat et en fait on a un modèle d'entreprise
l'entrepreneuriat qui s'est créé de manière adossée en fait à ce système salarial et qui remet pas vraiment en cause voilà la structuration de la société d'un point de vue voilà salarial, d'institution du salariat.
Et du reste, le Crédoc le dit, 56% des auto-entrepreneurs disposent d'un autre statut en parallèle, dont 28% un emploi salarié. Reste à savoir donc si devenir entrepreneur, c'est finalement participer à cette aventure-là qui est beaucoup mise en avant, ou si c'est au contraire faute de mieux ou par rejet simple et pur et simple d'un salariat. Une question que nous pourrons aborder dans une prochaine émission, puisque celle-ci est en train de se terminer. Merci beaucoup à tous les deux, Pierre-Paul Zaliot et Marion Fleischer, d'avoir participé à l'émission.